Alors, tout d'abord, première étape, et tu vas nous en parler, parce que qu'est-ce que lorsqu'on parle évidemment d'agression sexuelle envers une femme, alors il est important de déposer plainte, effectivement, dans ces gestes-là.
Oui.
Et tu nous en parles aussi ce midi. Et quel est le processus qui s'ensuit?
Tout à fait. En fait, ce que j'ai décidé de faire, c'était d'abord de mettre en lumière, évidemment, ce sont des gestes déplorables, mais qu'est-ce qu'une victime doit faire quand une situation comme ça arrive? Donc là, on parle victime féminine, ça peut très bien arriver à des garçons, mais là, on est dans le cadre des 12 jours d'action contre les violences faites aux femmes. Donc, d'abord, la première chose qu'on doit faire après l'agression, bien évidemment, c'est de prendre son courage à deux mains, d'aller déposer une plainte à la police, et puis d'aller à l'hôpital ou à la clinique afin d'obtenir les soins médicaux nécessaires. Et puis ensuite, vient le moment, on peut aller en thérapie et puis en parallèle, déposer une plainte au DPCP. Ce qu'on entend par DPCP, c'est le directeur aux poursuites criminelles et pénales. Et à l'heure actuelle, c'est une directrice que j'ai interviewée. Et puis le DPCP est ce qu'on appelait avant historiquement la procureure de la couronne ou substitut au gouverneur général. Donc c'est un organe qui est indépendant du ministère de la Justice et du gouvernement. Et puis j'ai interviewé Maître Walid Izagi, qui est avocat criminaliste à Montréal. Et lui, il rappelle qu'il faut impérativement déposer une plainte à la police et faire confiance en ses capacités d'enquête, puisque c'est elle la spécialiste en la matière. Donc, il nous décrit les étapes à suivre.
Il ne se passera rien vis-à-vis de la justice si on ne commence pas par faire une plainte à la police. La police, son rôle, comme on le sait, c'est de faire enquête sur le sujet. En matière d'agression sexuelle, c'est des causes un peu plus délicates, difficiles à enquêter, mais il faut avoir confiance que la police sont spécialisés en la matière et ils feront le nécessaire pour essayer d'obtenir le plus d'informations possible pour éventuellement porter des accusations. Alors, première étape, on porte plainte, la police fait son travail, mène une enquête pilotée par un enquêteur qui sera responsable du dossier. Et à un moment donné, l'enquêteur va être suffisamment confortable avec le dossier de poursuite qu'il a, la preuve qu'il a colligée, pour soumettre ça à un procureur dans la couronne ou un substitut du DPCP qui va voir le dossier de l'enquêteur et voir s'il y a matière à porter des accusations ou non. C'est ce qu'on appelle autoriser une plainte. Règle générale, c'est souvent autorisé à moins que il y a vraiment aucune preuve ou la preuve si on a juste une déclaration et que la déclaration est trop floue ou contient quelques contradictions, peut-être que ce ne sera pas autorisé. Mais si par ailleurs, on a une déclaration qui à première vue semble crédible, et si idéalement, on a d'autres preuves qui viennent corroborer la déclaration, il y aura une accusation. Après ça, la victime va attendre que le processus pénal, le processus judiciaire, suive son cours. Et la loi, en vertu de la Charte des victimes, oblige la poursuite, l'État, l'enquêteur ou le procureur, le DPCP, à tenir informé la plaignante ou le plaignant du déroulement des procédures à la cour, jusqu'à temps que le plaignant soit appelé à témoigner, ou bien dans le cadre d'une enquête préliminaire, et ou peut-être, si la personne maintient son plaidoyer non culpabilité et tient l'accusé, et tient à la tenue de son procès, éventuellement témoigner au procès. Et à travers tout ce processus, il est permis pour une plaignante, un plaignant, de se faire représenter par avocat. C'est pas fondamentalement nécessaire parce que déjà, le système, par ailleurs spécialisé, qui connaît les causes d'agression sexuelle, qui est très au courant de son obligation de rendre des comptes aux plaignants, mais si elle le souhaite, la loi lui permet d'avoir son propre représentant légal. Cependant, il n'y a pas un deuxième procureur de la couronne. C'est pas un adjoint qui se liera au substitut du procureur de la couronne pour poursuivre l'accusé. C'est juste quelqu'un qui pourra faire des représentations au procureur de la couronne, à l'enquêteur et peut-être à la cour si tant est que ça devienne nécessaire. Là. Alors, la loi permet d'avoir son propre avocat, son propre représentant légal. Et éventuellement, la justice décidera, un juge décidera en termes d'un procès si l'accusé est trouvé hors de tout doute, coupable, hors de tout doute, raisonnable ou non.
De plus, grâce à l'arrêt Jordan, il y a un délai qui doit être respecté pour régler cette cause.
Alors, une cause ne peut pas traîner indéfiniment en justice. Lorsqu'on parle de crimes sexuels, c'est toujours pris par acte d'accusation. Alors, une voie d'accusation pour les crimes graves, une voie un peu plus lourde. Et l'arrêt Jordan prescrit qu'une cause doit être décidée dans les 30 mois du moment qu'on porte des accusations. Alors, s'il fut un temps où la justice pouvait être lente, elle est devenue depuis 2016 beaucoup plus rapide. Et ça inclut les causes d'agression sexuelle.
Et bien que Maître Walid Izagi, lui, il est avocat de la défense, donc c'est-à-dire qu'il défend les coupables, les présumés coupables, mais il lui arrive de rencontrer des victimes. Alors, on l'écoute davantage à ce sujet.
m'est souvent arrivé aussi de recevoir des victimes pour se faire expliquer un peu le processus judiciaire, savoir comment ça marche. C'est des gens qui ont vécu une situation très difficile, très lourde. Souvent, ils n'en ont jamais parlé à personne et ils ne savent pas quoi faire. Et ça m'est arrivé d'en rencontrer. Alors, j'explique le processus et à travers cette expérience que moi, j'ai vécue, ce que je remarque, les deux étapes, je dirais, les plus difficiles pour une victime, trouver le courage d'aller voir la police et de porter plainte. C'est souvent pas facile. Souvent, on veut pas que les gens sachent qu'on a été victime d'une agression sexuelle, surtout pas ses proches, surtout pas sa famille, son conjoint. Des fois, c'est un secret qu'on garde. Mm-hmm. Si on porte pas plainte, il se passera rien. On peut pas se faire justice soi-même. Si on veut que la justice se fasse, il y a des institutions pour ça et ça commence avec la police. Alors, une première étape qui est souvent très difficile, c'est de trouver le courage d'aller faire une dénonciation. Avec tout ce que ça supporte, ça veut dire que ça va être su et il va falloir collaborer avec la justice pour que l'accusation se fasse. L'autre étape qui est très certainement difficile, une épreuve très lourde, très peut-être même insupportable pour une victime et qui est difficile pour un avocat comme moi qui représente quelqu'un qui est accusé, c'est l'épreuve du contre-interrogatoire. Alors, un plaignant, une victime, pour n'importe quel crime, fait une déclaration, porte plainte, fait une dénonciation, raconte ce qui s'est passé. Après ça, on témoigne. Alors, c'est le procureur au DPCP qui amène le témoin. Racontez-nous ce qui vous est passé à telle date. Après ça, c'est l'étape peut-être un peu plus simple que de raconter sa version des faits. Mais après, et en vertu du droit à une défense plénière, le droit de bien se défendre, un accusé a le droit sacro-saint, là, c'est extrêmement important. Et moi, comme avocat, c'est mon principal outil de travail. Contre-interroger quelqu'un qui fait des déclarations incriminantes à l'endroit de mon client, qui fait des allégations graves contre mon client. Moi, mon rôle comme avocat, c'est de tester la fiabilité, la véracité, la crédibilité de ce qui est dit. Peut-être que c'est pas vrai, là, ou peut-être que c'est pas complètement vrai, ou peut-être que ça s'est pas exactement passé de la façon que c'est raconté. Et mon travail, c'est de poser des questions pour préciser ou pour soulever un doute raisonnable. Ou si j'ai une preuve contraire, si je suis sous l'impression que la personne ment et j'ai une preuve que la personne ment, la contredire avec cette preuve-là. Mm-hmm. Et ça peut être une épreuve qui est très difficile pour une victime et qui, je le souhaite pas, mais ça peut décourager. Mais en même temps, l'accusé qui est présumé innocent a droit à une défense et l'avocat doit faire son travail.
Alors, comme Maître Walid Isagi l'expliquait, évidemment, le processus du contre-interrogatoire fait partie du procès. Ça peut être une étape difficile pour les victimes, mais néanmoins, il assure, bon, même si c'est stressant, les avocats sont là pour aider les victimes et non les tasser au pied du mur. On l'écoute à ce sujet.
Les poursuivants, c'est des avocats, c'est des responsables, consciencieux. Ils vont jamais mettre à froid là ou à chaud quelqu'un dans la boîte, comme on dit, avant de l'avoir préparé. Là, la personne ne se pointe pas soudainement devant un juge pour raconter son histoire. Il y a des étapes préparatoires à ça. Elle a été préparée à éventuellement témoigner à des preuves qui n'est pas simple parce qu'un avocat de la défense peut faire son travail et un bon avocat de la défense peut donner des coups, là, peut poser des questions sans être vexatoire, sans être insultant, mais de façon ferme. T'sais. Et ça peut, c'est une épreuve utile. Mais ça se fait pas du jour au lendemain, le témoin, plus souvent qu'autrement, a été préparé par ou bien l'enquêteur ou le procureur de la couronne avant de se retrouver devant le juge.
Donc, comme Walid l'expliquait, évidemment, les victimes autant que les coupables sont préparés au processus judiciaire. Et Walid assure que tout d'abord, ben, pour se faire justice soi-même, c'est très important que les victimes fassent confiance au système. Bon, souvent, le système fait mauvaise figure, mais le système est là pour aider les victimes. Et il faut vraiment d'abord porter plainte à la police.
Si la personne veut que son agresseur soit traduit en justice et soit éventuellement trouvé coupable et subisse une peine, ben, il y a juste une seule façon, c'est de porter plainte à la police. On peut pas se faire justice soi-même, il se passera rien si on fait rien. Alors, c'est de prendre son courage et de porter plainte à la police. Et après ça, j'ai envie de dire de faire confiance aux institutions. Il y a beaucoup de cynisme, il y a beaucoup de manque de confiance pour différentes raisons. Peut-être qu'il y a des cas particuliers qui ont été maltraités, mais de façon générale, la justice au Canada, elle est très bonne. Et l'agression sexuelle, c'est pas un crime nouveau, c'est pas quelque chose qui est apparu soudainement dans les dernières années. C'est un crime aussi vieux que l'humain. Alors, ceci pour dire que, avec les années, il y a des policiers qui se sont spécialisés en la matière. Il y a des procureurs qui se sont spécialisés en la matière. Et les juges ont l'habitude des causes d'agression sexuelle. Alors, faire confiance aux institutions. Peut-être qu'il y a eu des manques de tact dans des cas particuliers dans le passé, mais je veux dire, les enquêteurs, si une plaignante ne veut pas raconter ça à un homme, ben, il y a des membres d'un corps de police de sexe féminin. Si elle ne veut pas raconter ça à un avocat, ben, il y a des avocats. Faire confiance aux institutions, c'est un processus simple, c'est un processus qui est stressant, c'est un processus qui est parfait, c'est un processus qui peut prendre du temps, mais c'est un processus qui est bien fait, beaucoup mieux fait qu'ailleurs. Et de toute façon, il faut y faire confiance parce qu'on ne peut pas juste soi-même se faire justice soi-même, aller demander à son frère ou à son conjoint. Là, on ne peut pas faire ça. Il faut faire confiance aux institutions. C'est les seules qui peuvent porter des accusations et éventuellement mener un verdict de culpabilité.